que vous avez, à la suite des deux interventions, quelques questions avant qu'on aborde cet après-midi, effectivement, enfin qu'on rentre plus dans le sujet, dans les débats. Allons-y, on a une petite dizaine de minutes devant nous. C'est pour se battre. Non, non, mais comme le Dréal a fait beaucoup de provocations vis-à-vis du bassin Seine-Normandie, je me méfie. Hein, je vois tout de suite le bassin Seine-Normandie vouloir prendre la parole. Alors, on est inquiet.
Mais je connais bien Nicolas parce qu'on était à l'école ensemble dans notre jeunesse. Donc,
ah oui.
On connaît son côté provoque. Oui, en plus, moi, je ne suis pas du tout sur le bassin de la Seine. Hein. Moi, je suis exclusivement sur les fleuves côtiers normands. Et oui. Pour l'instant, bien qu'on ait pêché un saumon un peu par hasard à Suresnes, donc on n'en est pas encore à cette réflexion. Là, oui. Je voulais dire que, bon, je ne veux pas parler pour le bassin Loire-Bretagne, bien évidemment, bien qu'il y ait une petite rivière chez nous qui s'appelle Loire, qui est justement un affluent de la Célune, sur lequel l'INRA travaille beaucoup. C'est pour vous dire une chose, c'est que je pense que dans ce genre de document, il faut, bon, il y a toujours un côté bonne parole, objectif, etc. Tout le monde est toujours d'accord sur l'objectif, mais ensuite il y a un côté concret. Moi, je serai vous, enfin, je ne sais pas si vous allez le faire, mais je me fixerai des objectifs concrets du genre. Moi, quelque chose qui me paraît atteignable et accessible, c'est enlever, mais vraiment enlever les 13 barrages entre le bec d'Allier et Poutesse. Puisque Poutesse, je regrette mon cher Nicolas, mais tu ne peux pas comparer Poutesse et Vezin, c'est pas du tout pareil. Parce que moi, j'aurais la totalité de mes frayères qui vont être rétablies. Et puis, voilà, je n'aurais pas de... Bref, moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois qu'on peut faire ça. On l'a fait sur la Touque. Voilà. Sur la Touque, on a enlevé tous les barrages et on a eu 10 000 truites de mer. On l'a même fait dans des conditions difficiles, quand il a fallu enlever les barrages de Lisieux. C'était le même tabac que Vichy, hein, parce que les élus de... C'est une ville plus petite, Lisieux. La Touque, c'est une ville plus petite que l'Allier, mais c'est pas facile d'enlever des ouvrages dans des villes parce qu'il y a, le paysage des promenades. Je pense que c'est un objectif qui, à mon avis, serait très concret et est accessible. Mais pour ça, je vais quand même me retrouver vers Claude Giton. Alors, je n'ai pas fait mon école avec Claude Giton, mais je le connais depuis 20 ans. Pour dire que peut-être que l'agence de l'eau, et puis j'aimerais bien qu'il le dise à Noël Mathieu, pourrait faire un petit effort en plus. Parce que je crois que si on veut enlever tous ces barrages, il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir aller vraiment vers le 100% d'aide. Parce que vous ne pouvez pas enlever un barrage si vous n'avez pas 100% d'aide. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a un barrage de mettre... Déjà, ça va être très dur pour lui qu'on lui enlève, mais de mettre de l'argent de sa poche. Et puis, il y a des ouvrages privés. Donc, les ouvrages privés, ce n'est pas les ouvrages des collectivités. Les privés, eux, on ne peut pas leur dire, monsieur, vous avez des moyens. Il faudrait peut-être aussi que l'agence de l'eau réfléchisse à un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre et on a quand même réussi à convaincre le conseil d'administration de l'accepter, qui est... j'ai pas convaincu l'ADEB. J'ai d'ailleurs reçu une lettre assez méchante d'Odile Gauthier quand elle était directrice. Bref, qui est de quand même de racheter les droits d'eau. Parce que la police de l'eau, qu'on le veuille ou non, même si elle a juridiquement les moyens de le faire, elle ne le fait pas. Elle ne supprime pas les droits d'eau s'il n'y a pas l'accord des propriétaires. Par contre, quand vous venez vers un hydroélectricien qui va vendre son barrage, j'ai eu le cas très précisément, hein, et que vous lui dites, monsieur, ben, vendez-le plutôt à la Fédération de pêche. Et puis, en vous rachetant vos droits d'eau, on va vous donner 50 000 euros, parce qu'on a fait le calcul, il vous reste encore 10 ans à faire, vous avez tant de mégawatts et tout à faire. On vous donne 50 000 euros, et puis en plus, nous, à la différence de l'industriel, on va pas vous enlever les frais pour retaper votre barrage, on vous le paye tel qu'il vaut, le prix. Ça peut aider fortement. Et puis, une troisième prière aussi, je pense qu'on pourrait aussi, parce que ça, c'est juridiquement possible, et nous, on l'envisage très fortement, à ce que l'agence soit le maître d'ouvrage. Parce qu'à un moment donné, on va avoir un problème de maître d'ouvrage, in fine, malgré tout. Parce que même si on arrive à convaincre le propriétaire, avec de l'argent, avec l'aide des pouvoirs publics, qui partent, mais il faudra quand même que quelqu'un, à un moment donné, fasse les opérations, fasse les travaux, etc. Et les agences peuvent être maîtres d'ouvrage. Donc, pourquoi pas, moi je l'envisage très sérieusement sur certains ouvrages, que nous-mêmes nous achetions les ouvrages, donc là c'est même plus 100%, c'est obligatoire puisqu'on est maître d'ouvrage, que nous-mêmes nous les démontions et puis qu'ensuite on rende la rivière à la rivière. Voilà, donc tout ça pour vous dire, c'est que je pense que de mon point de vue, c'est quelque chose qui est faisable à condition qu'on le veuille et à condition qu'il y ait ce petit delta. Après tout, combien ça coûte d'enlever un ouvrage de type Brioude, etc. C'est dans les... En gros, avec 500 000 euros, vous donnez peut-être 100 000 ou 200 000 euros de rachat de droits d'eau. Avec 700 000 euros, vous en sortez. Bon, si vous avez 13 ouvrages à 700 000 euros, sur les... je sais plus combien vous avez dit, là. Je pense que c'est accessible, quand même. Je pense que c'est accessible dans un budget d'agence, même si il n'y a pas les montants qu'il y a dans d'autres agences qui sont plus riches, peut-être, mais je pense que c'est possible et c'est accessible. Et puis, voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, parce que tout le monde dit, c'est la condition. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, vous atteindrez le bon état. Parce que quand on regarde les barrages, y compris Poutesse, peut-être qu'on va faire passer les saumons. Mais le bon état derrière, qu'est-ce qu'on fait sur l'auto-épuration? Qu'est-ce qu'on fait sur toutes les questions d'autorisation, etc. Parce que quand on a un ouvrage, on règle le bon état. J'ai l'exemple concret, on est passé au bon état rien que par la réponse du bon. Indépendamment des poissons. Donc, et là, on répond à la DCE. Bon, j'étais trop long. Merci.
C'est font une bonne un bon apport hein, la deuxième intervention. Nos amis de l'Élorn. Non, c'est quelqu'un qui est d'autre derrière vous pour le moment.
Guillaume Ponsonnaille du syndicat de gestion de l'Agnan, en fait. Je me permets de rebondir sur l'intervention, que enfin, je peux que totalement y souscrire, puisque pour parler concrètement, à l'échelle d'un gestionnaire, on parle depuis des années de l'ouverture de l'axe à l'Agnan. On avait un très bon colloque de l'Ogrami l'année dernière sur la notion de gestion à l'échelle d'un axe complet. Même si on équipe, parce qu'on est parti, c'est parti comme ça sur l'axe Allier et sur l'axe à l'Agnan, l'intégralité des ouvrages, on va se retrouver avec une dizaine d'ouvrages sur l'Allier équipés, et non pas rasés. Sur l'Agnan, 8 à 10 passes à poisson. Comme l'a dit très bien tout à l'heure quelqu'un, sur les 100 qui vont arriver au départ de l'Agnan, il risque d'en arriver 2 à la fin à peu près, même si les passes à poisson sont au top du top. Ça, j'en doute fortement. On a eu concrètement, nous, sur, alors là je parle d'expérience, sur les deux dernières années, deux micro-centrales qui sont vendues sur l'axe à l'Agnan, dont une où il y a un enjeu très fort, on aura peut-être l'occasion d'y faire un saut ce soir, puisqu'elle est juste à l'entrée de l'Agnan. On avait sondé, nous, les partenaires financiers pour se porter acquéreur. C'est des micro-centrales qui vendent les ordres de grandeur, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros à peu près. Vous imaginez bien qu'un syndicat de rivière, on a parlé de notre force de frappe financière ce matin, qui vit à peu près avec 50 000 euros d'autofinancement chaque année, ne pouvait pas se porter acquéreur en mettant ne serait-ce que 5% de ces valeurs-là. Les délais de réponse des partenaires financiers, la complexité de montage juridique, etc., fait qu'on est encore passé à côté. Et au final, on se retrouve à ce que l'agence de l'eau finance des équipements de ces micro-centrales à hauteur de 200 000 euros d'aide. 200 000 euros d'aide pour l'une d'entre elles. Donc on a un petit peu manqué le coche, on devrait le manquer encore allègrement chaque année parce que les micro-centraliers ça bouge beaucoup, surtout quand on commence à travailler avec des fonds de pension. Donc du coup c'est un petit peu frustrant et on se pose la question, et on l'a posé ouvertement du coup à l'Adréal Centre notamment et au ministère, on se pose la question ouvertement de l'intérêt et de l'objectif de réouverture de l'axe à l'Agnan. Si l'idée c'est de continuer avec cette politique d'aménagement des ouvrages au cas par cas avec les problèmes de gestion future, très concrètement, et c'est la position des élus et la mienne personnelle à côté, il vaut mieux qu'on arrête complètement à penser saumon, s'occuper de nos truites et de nos ombres, et ça sera une échelle sur laquelle on arrivera à faire quelque chose sur notre dizaine de kilomètres de cours d'eau. Mais le saumon, il faut complètement l'oublier.
Oui, bravo. Hein, on ne peut que suivre le raisonnement et y adhérer. Hein, c'est vraiment une question d'objectif et d'affirmation des objectifs. Tout à fait d'accord avec vous. Les Lormes ?
Oui, il oui, y a... Il y a une question qui nous taraude, nous, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu le document, à partir de 2017, on ne lâche plus de smolt.
Oui, si j'ai bien compris et si j'ai bien lu le document, à partir de 2017, plus de smolt sur l'axe Loire-Allier. Alors, et par contre, on continue avec des alevins. Alors, j'imagine qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question pour que ce choix soit fait. Moi, j'avoue, je comprends pas très bien, et j'aimerais bien avoir les arguments techniques, scientifiques, parce que je sais pas de manière très précise combien de smolt ont été lâchés chaque année, je discutais hier soir avec les gestionnaires de la pisciculture, mais bon, j'essaie de comprendre. Parce que moi, j'ai lu dans la littérature, mais je ne suis pas scientifique, que le lâcher smolt de qualité, étant entendu que ce n'est pas une solution viable à long terme, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Tout le monde est d'accord pour dire que malheureusement, il faudra continuer à faire du repeuplement si, pendant encore quelques années, mais j'ai lu des choses disant exactement l'inverse. Alors, il y a peut-être des connaissances plus récentes, et donc, moi, j'aimerais bien avoir quand même des réponses là-dessus, quoi. Pourquoi plus de smolt, quoi ?
On va essayer. Voilà, vous nous apportez des réponses. Hein,
oui, la réponse est en bonne partie dans une des diapositives de notre exposé d'hier à Aymeric et à moi.
On va prendre voilà, le temps qu'il faut pour voir cette fameuse diapositive. Hein. Hier, on n'a pas pris le temps, donc allons-y. Le technicien qui est avec nous hier.
En fait, même sans la diapositive, on peut la montrer, hein, mais il y a un ensemble de travaux scientifiques depuis 15 ans qui conduit à considérer.
On va s'en débarrasser de cette diapositive. Elle nous embarrasse.
Non, c'est pas celle-là, mais peu importe. Elle est passée hier, mais en vitesse, évidemment. Non, simplement, il y a un ensemble de travaux scientifiques depuis 15 ans. Et il y a un consensus scientifique et même politique, puisque l'Oxan, donc conseillé par les scientifiques, a résumé ça dans la résolution de Williamsburg, qui est un document général sur les repeuplements, sur l'aquaculture, avec ses problèmes de l'aquaculture marine et des échappements de poissons en cage marine, et d'autre part, les impacts du repeuplement, même quand il est bien intentionné, et qui dit, faites les stades les plus précoces. Déjà, ne repeuplez qu'en dernière limite, le dos au mur, et faites des stades les plus précoces possibles parce qu'il y a un très gros effet de domestication, c'est très très rapide, hein, de même qu'on peut passer du loup au chien, on passe d'un saumon de parents sauvages à un saumon qui a un comportement inadapté, sauf que visuellement les apparences sont contre nous, parce que vous voyez les deux dans votre main, les deux smolt, c'est les mêmes, vous voyez les deux poissons à Vichy, c'est les mêmes, et ben c'est pas les mêmes, attention aux apparences. Voilà, alors...
On va voir par contre il a pêché.
Il y a quatre présentations dessus. C'est possible parce que sinon vous faites de la domestication parce que vous évitez la sélection naturelle qui est l'alpha et l'oméga de la survie des populations en milieu naturel. C'est limpide. Ça, on peut vous fournir tout document.
Alors, elle est juste derrière.
Qui a pris le micro ? Ah, oui, allez-y.
Vous venez d'évoquer à l'instant le saumon sportif de haut niveau. Sauteur, bien sûr, sauteur. Jumping. Et il se trouve qu'en Auvergne, précisément à Clermont-Ferrand, nous avons un grand champion qui s'appelle la Virénie. Voilà. Pourrions-nous associer une action sur la restauration du saumon dans l'Allier avec ce grand champion, grand sauteur international, connu, je pense champion du monde, champion olympique certainement, qui s'est engagé dernièrement pour la reconnaissance des volcans d'Auvergne à l'UNESCO. Premièrement, voilà la question que je viens de poser. Deuxièmement, cette nuit, en rentrant à Clermont-Ferrand, j'ai eu un rêve. Mais je l'ai déjà depuis longtemps. Pourrions-nous envisager une réserve, un sanctuaire du saumon dans le Haut-Allier, où ces poissons seraient tranquilles, où ils ne seraient dérangés que par les scientifiques ? Voilà ma question.
Patrick Martin. Bon, il y a des suggestions qui sont bonnes. Hein. Au niveau de la communication, de la sensibilisation, c'est vrai qu'il faut utiliser tous les moyens qu'on a. Utiliser un grand sportif pour communiquer autour du saumon, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Patrick, oui. Ça va arriver.
Quelques secondes, juste sur les smolts. Je vais aller, et je l'ai dit à plusieurs reprises, contre le sens de l'histoire et contre le sens des données. J'irai pas non plus contre le sens d'un marché, parce que les choses sont déjà verrouillées, puisqu'on est soumis au code des marchés publics, à un secteur concurrentiel, à une production. Donc c'est déjà verrouillé. Donc j'irai pas contre ça. Mais je m'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Les données, elles sont voilà. Effectivement, il y a moins de retours. Il y a des données, en termes de nombre de retours, qui sont assez faibles, même très faibles. La seule chose que je regrette, et pourtant, le Dréal de Bassin l'a clairement dit tout à l'heure, il y a un objectif, c'est d'avoir de la science, des données. C'est qu'il y a eu un écart très important. Pendant les 4 premières années, entre les taux de retour des smolts et l'ensemble des, la majorité des gens présents dans la salle viennent pour marquer les smolts, puisque malheureusement, on les marque pour les reconnaître. Je dis malheureusement parce que un jour, on verra aussi que la science montre qu'on ampute des poissons pour rien. Simplement parce que ça coûte pas cher et que ça permet de contrôler quelque chose. Mais si je vous ampute pour faire un marathon, vous courez un petit peu moins vite. On a un gros écart qui s'est passé avec des taux de retour très stables. Et c'est dommage que les graphiques ne soient pas là. De 20 à 25% de retour, quel que soit le taux de retour, pendant les 4 premières années. Et puis, un effondrement important. La seule chose qui a changé, entre-temps, c'est effectivement 2008 et un changement de stratégie. On a dit, on n'affecte plus des poissons de deuxième génération, de première génération, donc, dont les parents étaient sauvages, à la production de smolts. On les affecte à des alevins. Et on fait des smolts avec de la deuxième génération. Ça, c'est le changement majeur. Et on n'a pas fait de science après. On a dit, le taux de retour de smolts se casse la figure, mais on compare des torchons et des serviettes. C'est pas la même chose. Et là, la science est très claire. J'encourage tout le monde à lire ces articles. Il y a un article fantastique dans Science. Alors, c'est peut-être pas des revues faciles d'accès. Mais c'est le nec plus ultra de la revue scientifique avec Nature. Entre parenthèses, il y a 20 ans, on savait quand même que le saumon était un grand migrateur. Je rassure le Dréal. Par rapport à ça, c'est Menzies en 1957, c'est publié dans Nature, qui a montré qu'un saumon écossais allait jusqu'au Groenland. Pourquoi on a cet effondrement-là? Pourquoi on a chuté autant? Et l'article de Science dit, sur d'autres populations, c'est la Steelhead, qui effectivement, par génération, ont perdu fitness. C'est clairement dit. Et il y en a d'autres, des papiers comme ça. Donc c'est une question de choix. Alors c'est peut-être pas le meilleur choix, mais j'aurais bien aimé, uniquement sur le plan scientifique, qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'on a un peu le syndrome du sommeil. Hein, quand on n'est pas content de politique, quand on n'est pas content de la gauche, on passe à droite, puis quand on n'est pas content de la droite, on passe à gauche. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme quand on dort d'un côté, on dort mal, on se retourne, on pense qu'on va mieux dormir de l'autre côté. Mais on n'a pas répondu à la question de base. Et c'est vrai que c'est une des questions. Je regrette qu'on ne mette pas 5000 smolts, 10000 smolts de première génération, avec 10000 smolts de deuxième génération, et comparer des alevins de première génération avec des alevins de deuxième génération, la même année pour voir les taux de retour et faire ce que l'on appelle de la science. Voilà, c'est tout. Donc je n'irai pas contre le sens de l'histoire et contre le sens des marchés publics. Évidemment, le smolt va diminuer, c'est un état de fait. J'aurais simplement, en tant que scientifique, parce que c'est quand même ça ma préoccupation, le regret de ne pas avoir pu répondre à cette question, tout comme l'ablation de la nageoire adipeuse qui aujourd'hui est décrié dans les articles scientifiques, et on va publier aussi dans des revues avec un fort facteur d'impact par rapport à ça, soit considéré comme des choses indiscutables. Alors il y a dans certains cas des principes de précaution qui sont pris, et pas dans d'autres, je le regrette, sur le sujet du smolt.
Bon, je vais couper. Je suis obligé d'interrompre, hein, forcément, on est dans des échanges qui méritent d'être entendus et c'est toujours un sentiment de frustration de ne pas pouvoir, au fond, aller jusqu'au bout. Mais je suis atteint par l'heure, on a déjà encore débordé et si on veut reprendre à l'heure prévue et tenir dans les temps cet après-midi, alors on reviendra sur le sujet. Bon appétit. Au moins, refuser quelques suggestions ou questions, donc on va s'accorder le temps que tout le monde revienne et participe, s'accorder la possibilité de prendre quelques questions. Et entre autres, je vais donc inviter le député Proriol à s'exprimer, puisqu'il souhaitait le faire et que ce matin, j'ai pas eu l'opportunité ou l'occasion. Alors, on attend peut-être encore deux petites secondes, hein, voilà qu'ils arrivent, et puis je vous tends le micro. puisque je n'ai même pas quelqu'un pour tendre le micro, hein, c'est terrible. C'est la débandade, hein, c'est ça. Non, mais c'est toujours comme ça. Non, les possibilités d'échange que j'avais interrompues très rapidement ce matin. Voilà, Monsieur Proriol, donc, on va vous tendre un micro. Il n'y a pas tortillé, il arrive, ça y est. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir intervenir. Il n'est peut-être pas branché. Oui, c'est sur le... Non.
Oui, excusez-moi de faire retarder l'horaire de l'après-midi. Ce matin, je n'ai pas des questions rentrées. J'avais premièrement apprécié les deux exposés que nous avons entendus, qui étaient de très grande qualité. Il y avait provocation dans l'un des deux. Je ne vous dirai pas lequel. Vous le retrouverez sans doute dans le compte-rendu. Première observation, et puis une question. L'observation, c'est, vous avez abordé le problème des directives oiseaux. Nous avons deux directives oiseaux qui s'appliquent dans le département. La directive qui concerne l'habitat et l'autre qui concerne la reproduction. Et ces deux directives ont fait l'objet de deux classements. Un classement en zone protection spéciale et puis une autre zone spéciale de conservation. Est-ce qu'on peut transposer ça à l'échelon d'un fleuve? Je ne sais pas si on peut rentrer dans des partitions du fleuve, ou si on peut le faire sur toute sa longueur, ça poserait, j'imagine, d'autres problèmes. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien, notamment lorsque nous préparons les PLU, les plans locaux d'urbanisme. Et puis j'avais une question que j'ai déjà posée au voisin de droite. Je suis surpris, chaque fois qu'on nous ressort les comptages, on compte bien à Vichy, on comptait bien à Langeac. Mais personne ne veut payer les vitres qui sont cassées pour protéger le comptage. Et le maire ou l'adjoint au maire de Langeac attend les bonnes volontés. Il peut les demander peut-être à EDF, dans un moment de générosité, qu'on attend depuis quelques jours seulement. Donc on va voir. Mais c'est intéressant, et à Poutès aussi. Par contre, les comptages dans la zone maritime, là où les pêcheurs maritimes s'en donnent quand même à cœur joie, personne n'en parle, de temps en temps ça ressort, ils ont le droit de pêcher, mais est-ce qu'ils n'épuisent pas? Ce matin, sur les prélèvements, est-ce qu'on a des données quantifiées là-dessus? Et puis alors, est-ce qu'on peut avoir des données, puisque vous faites appel beaucoup aux scientifiques? J'en avais parlé à Gilles Boeuf, le président, le directeur du Muséum d'histoire naturelle, sur ce qui se passe entre le Groenland et l'arrivée au bord des côtes de France.
On a eu un certain nombre d'exposés hein, qui ont plus ou moins répondu à vos attentes hier matin, entre autres hein, sur les zones de grossissement, effectivement, où on voit bien que c'est là un des problèmes dans la gestion, au fond, des populations de saumon. Par contre, sur le deuxième volet ou votre première interrogation, je me retourne vers la salle et vers les scientifiques ou ceux qui peuvent répondre, donc entre autres, voilà, vers Nicolas Forêt de l'Adréal. S'il vous plaît, le micro pour Monsieur Forêt.
En ce qui concerne les engagements européens de la France, effectivement, la vallée de la Loire-Allier, je dirais, est de façon continue couverte par des sites Natura 2000 départementaux, et le saumon est effectivement l'une des espèces qui a justifié la désignation. Mais on l'a fait sur l'axe Loire-Allier parce que je dirais, c'était l'axe emblématique. Voilà. Pour ce qui est des comptages, je dirais la connaissance des captures réelles en mer est l'objet de contestations régulières entre ce que déclarent les pêcheurs, ce que déclarent les États et ce que les scientifiques estiment. Une petite anecdote, quand je m'occupais de l'estuaire de la Seine, la déclaration de débarque de sol sur le port de Trouville était de l'ordre de 6 tonnes par an. Quand il a fallu indemniser les pêcheurs à cause des altérations des zones de grossissement par le projet Port 2000, ils nous ont dit que non, c'était pas du tout le bon chiffre et qu'il fallait probablement le multiplier par 10. On a dit c'est bien, mais vous risquez quand même un redressement fiscal. Voilà. Donc c'est toujours compliqué de bien connaître la production d'un espace vide, enfin vide, très très plein, mais un espace où, je dirais, mal cerné. Donc nous ne connaissons pas effectivement le nombre exact de smolt qui passent sous le pont de Saint-Nazaire. Voilà, ils ont le mauvais goût de passer quand il y a beaucoup d'eau, et que quand il y a beaucoup d'eau, en général, elle n'est pas très transparente. Donc on ne sait pas compter les smolt à la descente. Donc on n'a pas idée de taux de survie au large. Et on ne connaît pas non plus, c'est pas faute d'avoir cherché à comprendre, le nombre de saumons qui tournent en rond en baie de Loire avant de remonter, voire éventuellement de se décourager. Parce qu'ils ne sont quand même pas très nombreux, l'espace est grand. Les dénombrer quand ils sont peu nombreux, rapporté au volume, c'est compliqué. L'avantage, si vous voulez, l'avantage, la passe de Vichy, c'est un moyen de contrôler. Vous avez un contrôle aux frontières, vous faites passer tous les immigrants dans un petit espace de 2 mètres de large. Alors vous les forcez, là vous les comptez à peu près tous. Mais on n'a pas installé ce genre de choses au pont de Saint-Nazaire. Ça me paraît un peu compliqué. C'est difficile le contrôle aux frontières.
Merci. Alors on peut prendre une question, s'il y en avait encore une qui était rentrée ce matin, monsieur là-bas. Et puis après on va reprendre le cours normal, hein, vous le comprendrez bien. On ne peut pas trop empiéter sur l'après-midi, puisque cet après-midi est important. Hein.
Oui, bonjour, Jean-Yves Mouello, président de Bretagne Grand Migrateur. Alors on voit bien que la question a été soulevée à plusieurs reprises, que qu'est-ce qui se passe en mer? Et on voit bien que c'est, quelque part, moi je l'appelle le trou noir. Et c'est vrai qu'il faudrait que nos scientifiques travaillent là-dessus, parce que je pense que c'est très important. Donc, comme Jean-Yves Kermarec l'a précisé ce matin, donc en Bretagne, on est quand même, je pense que, on va de l'avant sur ce point-là, on étudie beaucoup. Et donc on a des stations, on a une station, on en a parlé là dans le week-end, là, du SCORF. Et on s'aperçoit qu'en 20 ans d'expérimentation, que les choses bougent. Alors je vais être un peu plus clair, pendant 10 ans, je vais dire de 1995 à 2005, les populations sont restées stables. Une très faible population sur les gros saumons, sur les poissons de plusieurs hivers de mer, je veux dire, sur les poissons de 2 hivers, puisque c'est le cas chez nous. Les poissons, ce qu'on appelle nous les castillons, un hiver de mer, qui est resté stable aussi, avec des années moins bonnes et des années meilleures. À titre d'exemple, l'année la plus faible était 2003 et l'année la plus forte était 2004. Donc, les poissons sont piégés. Hein. Ils sont piégés, manipulés. Donc, l'orage, on le connaît par rapport à la prise d'écueil. Donc voilà, pendant 10 ans, ça ne bougeait pas. Notre rivière, elle ne bougeait pas non plus. Il y avait une production de smolt qui était... On avait l'impression qu'il y avait un plafond. Il y a un petit cours d'eau qui fait 60 km de long. On avait l'impression qu'il y avait un plafond qui était de l'ordre de 8000 smolt qui descendait en mer. Le taux de retour était, ma foi, pas trop mal. Il allait de 12% à 25%. Donc voilà. Et puis à partir de 2003, il s'est passé quelque chose. On a eu une diminution du poids des poissons. Et quand je dis une diminution, par exemple sur les castillons, que le poids moyen était à peu près de 2,5 kg, actuellement il est à 1,9 kg. Cette diminution, je ne sais pas si c'est lié, hein, c'est pas mon métier, je veux dire, et cette diminution a été accompagnée avec un retard de la migration. D'un pic de migration qui était situé entre le 1er et le 15 juillet, on est passé au 15 août. Donc on a vu que là, il y a quelque chose qui a bougé. Autre chose qui a bougé, les poissons de plusieurs hivers de mer sont en légère augmentation. Ils sont en légère augmentation, et chose qui est, je vais dire, pour nous, encourageant, qu'on n'observait pas avant, dans les 10 premières années, on a quelques poissons de 3 hivers de mer qui reviennent. Et on a une autre composante du stock qui peut nous donner justement un coup de main, notamment pour la dépose d'œufs. C'est des poissons qui reviennent pour une seconde reproduction. Et on a des poissons de seconde reproduction, voire de troisième reproduction. Et cette année, on a même eu un géniteur, un bécaire, qui est descendu vers la mer, qui s'est reproduit 3 fois. Et donc, c'était un potentiel, je vais dire, quatrième reproduction. Et donc, c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui bougent énormément en mer. Et hier, au niveau de la pêche, j'ai entendu dire, bah oui, à quoi ça sert d'ouvrir la pêche sur un cours d'eau où on prend 10 poissons. L'exemple de l'Élorme, par exemple, 1300 poissons passés à l'heure actuelle sur l'Élorme, et il y a seulement 50 saumons de capturés. Tout simplement parce que le retard de montaison, les poissons ils arrivent en plein été, ou ils arrivent lorsqu'il y a des niveaux très faibles, et la capturabilité de ces poissons-là, elle est très faible également. Et voilà, c'est bien pour ça qu'en Bretagne, on a d'ailleurs repoussé la date de fermeture de la pêche. La pêche du saumon est ouverte jusqu'au 15 octobre, de façon justement à pêcher ces fameux castillons. Donc voilà, je pense que la mer, il ne faut pas ignorer la mer. Alors, on se pose la question sur la survie des smolts de repeuplement, je vais dire. Et déjà, il y a une question à se poser, déjà même sur les smolts sauvages, quoi.
Merci.